Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission consacrée à la bibliographie de Francis. Francis, bonjour.
Bonjour.
Bien, alors aujourd'hui, Le Cordillo, pour premier livre sur la Commune de Paris.
Alors en effet, Le Cordillo, c'est finalement un défi que se sont lancés une trentaine de chercheurs, emmenés par Michel Cordillo, un historien, c'est-à-dire avec comme objectif de rassembler dans un ouvrage de 1438 pages, soyons précis, la connaissance la plus large et néanmoins précise de cet événement historique, la Commune de Paris, objet de tant de livres, d'articles, que Quentin Duliermoz, un des collaborateurs de cet ouvrage, considère qu'il est impossible à une seule personne de tous les lire. Tout d'abord, la diversité communarde apparaît dans les 500 biographies sélectionnées dans le Métron. En effet, cet ouvrage dont nous commentons, là, le Cordillo, eh bien, est parrainé par le Métron, c'est-à-dire le célébrissime dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Et il faut suivre le conseil de Michel Cordillo et se rendre sur le Métron-en-ligne pour découvrir les 17 500 autres communardes qui ont participé et qui sont recensés. Le point commun de toutes ces femmes et ces hommes, eh bien, Cordillo le dit, leur vie a été profondément marquée par la Commune, qu'elle ait constitué un aboutissement, pour ceux qui sont morts, comme Delescluze, un épisode central de leur existence, comme Elisabeth Dmitrieff, qui disparaîtra après, ou un point de départ dans leur engagement ultérieur, comme Nathalie Lemel, comme Louise Michel. Ce dictionnaire, déjà riche de la relation de toutes ces existences, même hors du commun, rendez-vous compte, ils ont vécu 72 jours absolument étonnants, 73 même si l'on intègre la résistance du fort de Vincennes jusqu'au 29 mai. Mais au-delà de ces biographies, il y a aussi des notices thématiques. Et le lecteur peut, sans lire forcément page après page, mais peut butiner en quelque sorte dans ce dictionnaire. C'est l'intérêt, c'est une forme de dictionnaire, c'est l'intérêt de ce dictionnaire. Mais il peut découvrir l'histoire de la Commune, la chronologie des événements, mais aussi comment vivait-on à Paris pendant ces 72 jours? Quels étaient les grands débats? Fut-elle, question intéressante, fut-elle socialiste ou sociale? Et l'après-commune? Comment les gens revenaient? Comme disait Georges Renard, un déporté qui reviendra, revenir d'exil, c'est encore s'exiler. C'est-à-dire que quand on revient 10 ans après la loi d'amnistie, eh bien, on voit une société qui a bougé, on repasse dans les rues où on s'est battu, et puis on constate qu'on est éventuellement un inconnu. Et c'est très bien raconté dans un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philémon, Les vieux de la vieille, écrit par Lucien Descaves, qui montre la vie de ces communards qui se sont exilés, qui en Belgique, qui en Suisse, et qui reviennent, et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire. Et alors, on a des interrogations. Quelles sont les causes de la Commune? Et l'ouvrage l'explique bien. Tout d'abord, une aspiration politique majeure, la République. Le mot « la République », un terme générique qui anime les oppositions à l'Empire. Un contexte, ça c'est le premier point. Tous les opposants sont pour la République, mais ça dépend laquelle. Un contexte économique et social dit de révolution industrielle qui, pour beaucoup, se traduit par la misère, l'exploitation, la naissance du prolétariat. Il suffit de relire les textes de Varlin ou de Benoît Malon, par exemple. Et Paris est en pleine transformation. C'est la plus grande ville de France. Une explosion économique. Un décalage entre la capitale révolutionnaire, dynamique, et la province rurale. Je ne dis pas les autres villes de province, car au moment de la Commune, il y aura, au moment de la Commune de Paris, il y aura d'autres communes. Mais, et c'est très bien écrit dans l'ouvrage, mais le monde rural traditionnel, agricole, je dirais, traditionnel, sous le contrôle des hobereaux et des conservateurs, évidemment, il y aura un décalage fort, comme je le dis, et avec des conséquences pendant la Commune. Et la déclaration au peuple français que la Commune voudra adresser à l'ensemble des habitants de notre pays, déclaration au peuple français du 20 avril 1871, en plein milieu, là, recevra peu d'écho. Pourtant, comme je le disais, il n'y a pas eu de Commune qu'à Paris. Et on trouvera des notices sur Marseille, sur Lyon. Marseille, Crémieux, un des organisateurs qui sera fusillé à Lyon dès septembre 1870. La venue de Michel Bakounine n'a pas réussi à créer un mouvement conséquent. Et un texte d'ailleurs de Bakounine de juin 1871 souligne qu'une révolution ne se décrète pas et qu'elle doit venir du peuple. Donc les notices fournissent une analyse très fine sur cette avant-commune. À Paris, on va avoir des hommes, des femmes qui vont se mobiliser. Est-ce qu'on peut donner une définition de la Commune ? Oui, il y a une notice sur la définition de la Commune. Mais je fais exprès de ne pas la donner pour inviter nos auditeurs à découvrir dans ce livre qui est vraiment l'ouvrage de référence. Je pense que de tous les ouvrages sur la Commune qui sont sortis pour le 150e anniversaire, celui-ci est probablement le plus important, celui qui va rester. Alors, une autre question, quelle légitimité peut-on donner à la Commune, l'institution politique ? Des milliers de Parisiens, les femmes ne votaient pas, ont élu leurs représentants. Leur programme est étonnamment moderne. Et les conseils sur une très belle affiche de la Garde nationale pour désigner leurs représentants. Désignez des représentants qui vous ressemblent. Désignez des représentants qui ne cherchent pas à faire carrière. Eh bien, pour ceux qui croient encore dans la démocratie représentative, en désignant des députés, des sénateurs pour certains.
Des conseillers généraux.
Des conseillers départementaux, des conseillers régionaux. Eh bien, ce texte est d'une actualité, là aussi, totale. C'est ça que, de livre en livre sur la Commune, nous pouvons relever, c'est l'actualité des propos, c'est l'actualité des débats. Alors, la lecture de ce monument, qu'est ce livre, donne le sentiment de parcourir les rues de Paris, de se rendre dans les clubs en croisant des têtes connues. Tiens, Nathalie Lemel, tiens, Charles de Lecluse, Jean Alman, Émile Duval qui sera assassiné par les Versaillais à Clamart, au petit Clamart, qui s'appelait à l'époque le Petit Bicêtre. Il y a d'ailleurs une rue du commandant Duval au petit Clamart. Et puis il y a aussi, on va croiser, tiens, les frères Reclus. Élisée, qui sera arrêté aussi sur les hauteurs de Clamart-Châtillon, et Élie Reclus, qu'on connaît moins et qui a fait pourtant un livre très intéressant parce que lui, il n'a pas été arrêté dès le 3 avril, il a pu vivre la Commune. Et puis, il y a aussi les sans-grades, les obscurs, ceux qui se battaient pour, comme le souligne l'ouvrage de Michel Cordillo, pour une république universelle, démocratique et sociale, jusqu'à leur mort. Alors, les femmes ne sont pas éligibles, mais elles ont toute leur place. Bon, il y a celle qu'on connaît peu, Eulalie Papavoine. Elle est peu connue, celle-là. André Léo, qui C'est son nom de plume qui restera dans l'histoire. Et en fait, elle a été obligée, un peu comme George Sand, peut-être le seul point de comparaison, elle a été obligée de prendre un nom masculin pour pouvoir publier. Et elle a pris les deux prénoms de ses enfants, de ses jumeaux. Mais on croisera aussi Anna Jaclard, une noble russe, tout comme Elisabeth Dmitrieff, évidemment Louise Michel. Mais il y a les autres, il y a cette autre Louise dont on connaît le nom, puisque le prénom uniquement, c'est une infirmière au bas de Belleville qui aidera les derniers communards. Et puis il y en a un que j'aime beaucoup, c'est il y a X, un communard inconnu tombé au Père-Lachaise le 27 mai. Et comme le dit Cordillot, clôturer la partie biographique de ce dictionnaire avec ce mort privé de nom sera une manière de rendre hommage aux milliers de combattants de la Commune condamnés à rester anonymes, car fusillés au coin d'une rue, jetés dans une fosse commune, oubliés dans les catacombes. On oublie les combats des catacombes où on a laissé des communards se perdre et mourir de faim. Aussi, le lecteur sera séduit par la qualité des échanges entre les différents acteurs de la Commune. On aura des débats. Alors les ouvriers, les artisans, les journalistes, on disait les publicistes à l'époque, les gens du peuple prennent à bras-le-corps des débats et des enjeux. Et de quelle République parle-t-on ? Vallès donne de sa voix dans le cri du peuple, mais ce même peuple, lui, s'exprime dans des clubs. Et ça va favoriser l'expression d'une culture politique populaire, originale et influente. On y croise notamment, on l'a déjà vu en d'autres lieux, Paul Minck, une militante féministe ardente, une oratrice redoutable. Certes, les canonnades rythment la vie des habitants. Mais la Commune impulse un certain nombre de réformes. La séparation de l'Église et de l'État, qui n'a pas attendu 1905. La question des loyers et du logement. Dans une chronique, Hugues Lenoir, que nous connaissons, souligne dans une notice consacrée à l'éducation les innovations, notamment dans l'égalité entre les garçons et les filles en matière pédagogique. D'autres auteurs développent l'organisation des services publics, celui de la justice. Et puis, il y a des analyses sur les chansons. À l'époque, la chanson, et vous en entendrez dans cette émission, la chanson remplaçait l'émission de radio. Radio Libertaire n'existait pas encore à cette époque. Bon, il y a aussi les pièces de théâtre, les journaux comme Le Père Duchesne. Et donc on a quantité de notices qui nous présentent, qui nous font vivre Paris au moment de la Commune. Et puis, ce qui me paraît aussi intéressant, là, c'est plutôt l'historien qui s'exprime un peu, et le formateur, c'est que l'ouvrage, à la différence d'autres ouvrages, donne aussi la parole à ceux d'en face, aux opposants, à ceux qui sont contre, notamment les écrivains. On rappelle que des hommes comme Louis Blanc, une figure de 1848, un socialiste, est contre. Henri Tolin, proudhonien, un des fondateurs de l'AIT, est aussi en désaccord avec la Commune. Et puis, on a une partie très intéressante, débat et controverse, avec les échanges vigoureux entre Marx, Bakounine et les différentes visions que l'on a de la Commune et du socialisme. Donc, il y a quantité de thèmes. On se promène au fil des pages comme dans les rues de Paris, comme je le disais. Et puis, il faut souligner aussi la très belle mise en page, la très belle iconographie. C'est vraiment un outil de travail pour les chercheurs, pour les militants, et c'est un guide pour tout lecteur qui est curieux de découvrir ces jours de liberté sans rivage, pour reprendre l'expression de Jules Vallès. Et puis, en conclusion, puisque tout sur la commune ou presque, est-ce qu'on a tout écrit ? Non, répond Quentin Dullier-Moz, que je citais tout à l'heure. Les archives ne sont pas toutes exploitées et le travail initié par Jacques Rougerie, le grand spécialiste de la commune, un très grand monsieur, un très grand historien, est loin d'être achevé. Voilà qui laisse des perspectives aux jeunes générations. La commune de Paris, les acteurs, les événements, les lieux, un ouvrage coordonné par Michel Cordillot, édition de l'atelier 2021.
Des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les euros même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants.
Oui, mais ça prend le temps.
Les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par l'aventure, les complaisants, les décorés, sans le bourser de coin de rue, amants de filles au rebut, brouillés comme un tas de verrues, sur les cadavres des vaincus. Qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de Bourges, valets de rois et d'empereurs.
Oui, mais ça prend le temps, le manche, les mauvais jours.
Sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du chômage?
Oui, mais ça prend le temps. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. connaîtront.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM, nous sommes avec Francis dans sa bibliographie et nous allons aborder le deuxième ouvrage de cette quinzaine. Francis ?
Oui, merci Mariama. Alors, nous allons aborder là un beau livre, un très beau livre que nous offre Laure Godineau. Le livre s'appelle « La Commune de 1871, expliquée en images ». Qui sont ces communeux, ces fédérés ? Car souvent, on utilise l'expression « communard » et c'est ce qui est devenu le langage commun. Mais initialement, ces gens-là ne s'appelaient pas des communards. D'abord, dans l'expression « communard », il y avait un mépris. Vous savez, les soifards ou d'autres expressions comme ça. Non, ils s'appelaient les communeux ou des fédérés. Et qui sont ces fédérés ? D'entrée de jeu, Laure Godineau, en couverture, nous montre un tableau d'une barricade. Le tableau est assez connu. J'espère que les lecteurs pourront l'apprécier. Et ce tableau, vous avez des femmes, des hommes, du peuple de Paris, des gardes nationaux en uniforme bleu à côté de civils. Il y a un homme en chemise. Il y a un homme avec une veste barbu qui tient un chasse-pot. On a une femme en haut à côté d'un drapeau rouge, probablement une cantinière ou une infirmière. Et ils sont sur une barricade, les pavés. Paris est une barricade, symbole de la défense de cette République universelle, démocratique et sociale. Alors comment raconter ces journées d'enthousiasme, de lutte, d'espoir et de sang ? Alors Laure Godineau prend le parti pédagogique de répondre aux questions de son fils, un jeune adolescent, très perspicace, ce qui relance l'attention du lecteur. Et surtout, elle accompagne ses propos d'une magnifique iconographie, tableau, photo, esquisse. La Commune de Paris ? Quelle définition en donne-t-elle ? Une insurrection qui avait l'espoir de bâtir une autre société et qui, pour elle, reste toujours actuelle. Le travail du maquettiste est remarquable. Ces photos pleines pages vous font rentrer dans la scène. Vous êtes sur la barricade. En dos, vous avez une photo qui représente des gardes nationaux, les pavés de la barricade, le canon, des enfants. Un peu plus loin, vous avez une vue plongeante sur les célèbres canons de Montmartre, le ballon de Gambetta, les combats du Père Lachaise qui donnent vie à ces jours si parisiens. Et puis, pour compléter ces images, ce n'est pas qu'un livre d'images, l'auteur nous fournit des explications fines pour donner à comprendre. Les enjeux sont clairement posés. Une chambre monarchiste, eh oui, la République est proclamée au mois de septembre, on a des élections et on a une chambre monarchiste, majoritairement monarchiste, des républicains fragiles, un peuple parisien qui a souffert du siège et de ses injustices. Nous sommes battus. Regardez ces Allemands, vous les verrez en photo. Regardez ces Allemands place de la Concorde. La France se sent humiliée, le peuple parisien se sent humilié. Pourquoi la France devrait-elle se coucher devant l'ennemi ? Et ce ressentiment du peuple parisien sera un des vecteurs de la Commune de Paris. Ce ressentiment du peuple parisien se retrouvera d'ailleurs en 1940 devant les défilés identiques. Pendant que le gouvernement de Vichy, les Versaillais de 40, se couchait lui aussi. Des images symboles comme cette affiche que j'aime tant, l'affiche du comité central de la garde nationale qui appelle à désigner des hommes aux convictions sincères et toujours d'une actualité rare. La Commune est d'abord apparue, dit Laure Godineau, comme le premier gouvernement ouvrier en France. Et c'est pour ça que tu peux encore voir, dit-elle à son fils, sur un mur, encore aujourd'hui, vive la commune. Et je suis passé encore cet après-midi devant un mur où il y a vive la commune. Alors, les débats, on en parle souvent, les débats, les idées sont d'une grande modernité. Le contrôle des élus, celui des fonctionnaires, la justice, le rôle des notaires, le monde-piété et l'aide sociale, la place des femmes dans la société. Une image présente les hommes de la commune, et évidemment, c'est-à-dire le gouvernement, entre guillemets, de la commune, et évidemment pas une femme, puisqu'elles ne peuvent pas se présenter. Mais alors où sont-elles? Eh bien, alors Godineau nous montre dans les clubs, dans les églises transformées en espaces de débat démocratique, sur les barricades. Elles sont aussi sur les barricades. Et on aura la célèbre, évidemment, enfin, les célèbres barricades de Paris, défendues parfois quasi exclusivement par les femmes. Et puis, les pavés de Paris, et Laure Godineau a cette très belle expression, deviennent noirs et rouges. Noir de poudre et rouge de sang. C'est le début de la semaine sanglante. Il rentre notamment par Boulogne, par la porte du Point du Jour. Il rentre par Saint-Ouen sur le nord. Il rentre par le sud. Les Versaillais vont pénétrer et vont massacrer. Thiers avait refusé tout débat. Il avait rejeté la délégation des francs-maçons. La semaine sanglante débute. Et vous retrouverez par exemple un tableau, enfin une esquisse de Manet, je crois que c'est une aquarelle de Manet qui s'appelle La Fusillade. Vous retrouverez aussi ce marin qui est décédé sur une barricade, dans une position qui n'est pas sans rappeler le poème de Rimbaud qui fut, selon la légende, lui aussi communard. Il y a énormément de textes, mais il y a aussi énormément de tableaux. Il y a aussi ce célèbre tableau « Une rue de Paris » de Luce, du peintre Luce, où on voit, fin mai, la rue est déserte. Il y a une femme qui a été tuée, trois soldats à côté d'elle, trois gardes nationaux qui ont été tués. Et puis un peu plus loin, vous avez un autre garde national qui est tué. C'est la semaine sanglante. Alors après, après on juge. Des militaires jugent. On déporte même les femmes. Et que de morts à Paris? Combien? On ne saura véritablement jamais. Mais que de morts aussi si loin. Et puis le retour. La mémoire vive, elle est là. Et nous la faisons vivre. Laure Godineau, La Commune de Paris, expliquée en images, édition du Seuil, 2021.
Merci Francis. Chers auditeurs de Pas de Quartier, sur Radio Libertaire 89.4 FM, en région parisienne et sur le net pour le reste du monde, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre chronique de Francis. Merci beaucoup.
Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, s'il les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et ben joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'orage de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins? Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Ah, ah, ah.